Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, nous aborderons la mémoire du Perche et pour cela, j'ai invité Marie-France Kayser. Elle est rédactrice en chef de la revue Paix du Perche et dans le nouveau numéro 36, elle met en évidence notre patrimoine perchero. Marie-France Kayser, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors justement, pourquoi, comment vous est venue l'idée de mettre le patrimoine percheron en beauté, si je puis dire, et de commencer justement par les jeunes? J'ai beaucoup aimé cette idée des écoliers de Nocé qui sont donc à la conquête de l'espace. Racontez-nous.
Absolument, parce que le patrimoine percheron, ce ne sont pas que des vieilles pierres. Ce sont aussi les gens qui habitent Perche. Et quoi de mieux que la nouvelle génération? Donc j'étais invitée au mois de juin dernier dans une école de Nocé pour assister en direct à une expérience extraordinaire, c'est-à-dire que les enfants étaient préparés évidemment depuis longtemps, mais ils étaient tous réunis pour parler avec Thomas Pesquet qui allait passer au-dessus de nous dans sa navette spatiale. Et ils avaient préparé des questions et ce qui m'a vraiment épatée, oui, c'est de voir tout le travail que ça avait représenté de la part d'une équipe vraiment très très motivée. D'abord, il y avait 63 enfants concernés. Il y avait les enfants de l'école de Nocé, mais pas seulement. Au départ, est-ce que je vous raconte la genèse?
Mais oui!
Absolument. Alors, au départ, je crois que c'est une jeune femme qui est professeure au collège de Bellem et qui est passionnée de radio.
Oui.
Qui a fondé un club de radio amateur au collège, qui a eu cette idée et elle a réussi à entraîner avec elle un groupe d'enseignants et de radio amateurs. Alors, c'est Marie Allais, c'est son nom. Elle anime un club de jeunes collégiens qui se sont passionnés pour la radio et qu'elle a formé à... Parce qu'on ne communique pas à la radio amateur comme au téléphone. Hein. Il y a des codes,
sûr,
etc.
Ouais.
Elle leur apprend tout ça.
Et alors, on voit aussi sur une photo qu'ils ont revêtu, certains ont revêtu, la vraie combinaison de cosmonautes.
Ah, oui, parce qu'en réalité, bon, il y avait tout ce travail de radio pour communiquer, mais il y avait autour tout un travail des enseignants sur plusieurs matières. D'abord, ils ont dû déposer un dossier en anglais, préparer des questions, etc., les traduire, les envoyer au centre spatial, au centre d'études spatiales, pour que ça soit accepté.
Donc le professeur d'anglais.
Professeur d'anglais. Ensuite, je crois qu'on étudie maintenant l'anglais aussi dans les classes pré-collège, hein, dans
oui,
le groupe
moyen, très bien,
on apprend
oui.
un peu les rudiments d'anglais. Et donc, ensuite, ce travail a concerné les mathématiques, les sciences, la physique, le français aussi, puisque ils ont étudié toute une série d'ouvrages qui parlaient de l'espace,
oui.
Bon, des ouvrages techniques, mais pas seulement. Le Petit Prince, par exemple, a fait partie
et
d'un
oui,
ouvrage.
Oui.
Voilà, il y a eu toute une bibliothèque qui a été réalisée sur ces sujets et ça a passionné les enfants. En réalité, quand j'étais dans cette classe, tout d'un coup, il y avait tous ces enfants qui attendaient vraiment le moment clé où ils allaient entendre la voix de Thomas Pesquet leur répondre. Et je me souviens d'une conversation avec le jeune Maxence. Maxence, il a 10 ans, 11 ans peut-être. Bon. Et il me dit... Tu vois, je n'avais jamais pensé que c'est un métier que je pourrais faire.
Ah oui, merveilleux.
Et tout d'un coup, ils étaient là, ils avaient le cœur battant, ils étaient vraiment, vraiment complètement dans la joie, dans l'attente,
Et Thomas Pesquet leur a parlé?
Oui, bien sûr. Alors, ils avaient préparé toutes leurs questions. Alors, on leur a appris à poser leurs questions d'une certaine manière. Par exemple, quand on pose une question, il faut toujours terminer la question par le mot « over ».
Oui.
Toutes les conversations se terminent par le mot over parce que l'interlocuteur sait à ce moment-là que
parler.
La question est terminée et qu'il faut répondre.
Oui.
Et donc, bon, alors ça, ils l'ont appris. Alors, ils avaient préparé toutes sortes de questions. Mais il y en a une vraiment qui les a marquées, enfin plusieurs qui les ont marquées. La question qui les a marquées, c'était « Est-ce que tu avais eu l'idée de faire ce métier quand tu avais notre âge ?» Et la réponse de Thomas Pesquet, qui a grandi, puisqu'il leur a dit, dans une petite ville
comme Bellem, non
normande, hein,
oui.
Vraiment. Et ben, il dit, je n'avais pas idée que ça puisse exister.
Bien
donc
sûr.
Effectivement, tout d'un coup, ils ont eu l'impression que ça leur ouvrait beaucoup de portes, tout
oui,
ça.
C'est ça, oui.
Et la dernière question qu'on lui a posée, c'est est-ce que tu serais d'accord pour qu'une école, l'école du Gué de la Chaîne, porte ton nom, de donner ton nom à une école
ah,
du
oui.
Perche? Et il a répondu, je serais très fière. Et donc, les enfants étaient enchantés, vraiment. Alors, ce ne sont pas seulement les élèves de Nocé qui ont préparé les questions, hein, ce sont les 63 enfants concernés dans ces trois classes, hein, qui étaient, donc je répète, Bellem et le Gué de la Chaîne. IG le Gué de la Chaîne, voilà. Il y avait trois institutrices qui étaient dans leur classe. Tout cela était relié par un travail qui avait été fait par des techniciens, effectivement bénévoles. Hein. Tout ça, c'est vraiment tout un groupe de gens bénévoles qui ont mené ce projet. Et ça a duré 2 ans. De
ah,
préparation.
Oui.
Il a fallu 2 ans de préparation.
Et ça, c'est Marie Allais qui est professeure.
Au départ, c'est elle qui a eu l'idée.
Voilà, c'est ça. C'est ce professeur du collège de Bellem qui
oui,
anime cette radio.
C'est elle qui a eu l'idée. Elle anime un club au collège de Bellem. Il y a un radio club qui s'appelle, dans le langage technique des radio clubs, F4KLQ. Et qui est à l'origine du projet, et c'est avec ce club que les transmissions vont être assurées. Alors ensuite, il y a 3 institutrices qui s'appellent Vanessa Blatrix, Eva Guégan et Alice Angot. Enfin, elles sont professeures des écoles, et ce sont elles qui ont, je peux dire, ciselé des ateliers pour que les enfants arrivent à mener au bout ce travail remarquable. Vraiment.
Yes.
Alors, ils ont construit, comme vous le disiez, un habit de cosmonaute.
Oui.
Ils ont réalisé des maquettes de la station spatiale. Ils ont essayé de remettre.
Alors, quand même une question.
Oui.
Pour pouvoir apprendre à construire une fusée, est-ce que le CNES est intervenu?
Oui, bien sûr.
Ah, voilà.
Il y a eu 2 techniciens de Toulouse qui sont venus, hein,
ah,
de toute
oui.
façon, et ils étaient là le jour de la. De cette émission tout à fait exceptionnelle, ils sont venus dans les écoles assister l'équipe technique, hein, de toute façon. Il y a aussi, je dois dire que je voudrais les citer parce que ils ont fait un travail remarquable, des radios amateurs percherons.
Oui.
Qui les ont beaucoup aidés. Donc, il y a Marie Allais, dont on a parlé, mais pas seulement. Il y a 2 personnes du Gué de la Chaîne, André Charrière et Claude Jousselin. Et puis, il y en a 2 autres qui sont à Nocé, Mathieu Mostel et Jérôme Andrion. Et ce sont eux qui ont animé les ateliers, qui ont permis aux élèves de se familiariser avec tout ce qui était radio, etc.
Oui. Est-ce qu'une maquette a été réalisée ensuite?
Absolument, il y en a eu 3. Et il y en a eu une qui a été offerte, 2 qui ont été offertes, une à Marie Allais, l'autre, je crois, aux radios.
Oui.
Et puis, il y a une 3e qui était dans une école, absolument.
Alors ça, c'est quand même très intéressant. Et est-ce que les élèves ont aussi adressé des questions à la NASA?
Alors, au départ, tout était recentré, hein, au départ.
Oui, c'est ça,
hein,
oui.
Voilà. Alors après, le détail, je connais pas tout
oui,
le détail
oui.
de leur travail parce que ça a duré 2 ans avant d'arriver à ce résultat. Il y a eu des tas d'étape.
Oui. Écoutez, je dois dire que ce sujet est très intéressant et c'est agréable de voir que on peut, en lisant Pays du Perche, rencontrer des jeunes qui sont animés par une foi en la science et en ce qui est important à notre époque. Parce que Thomas Pesquet, c'est quand même quelqu'un dont on rêve de pouvoir parler avec lui, par exemple.
Ah ben oui, ben là, ils ont parlé directement, il leur a répondu à tous. Hein, de toute façon, c'était des questions qui ont été choisies, triées. Voilà, ensuite, parmi les élèves, bien sûr, tous n'ont pas parlé, mais il y en a un certain nombre qui ont été chargés de répondre, de présenter les questions. Et Thomas Pesquet leur a répondu très précisément à chaque fois. Je crois que ça leur a ouvert des perspectives.
Certainement, certainement. Alors, nous sommes dans les personnes remarquables. On peut dire que là, vous commencez par le début, les jeunes adolescents. Et vous avez rencontré aussi d'autres personnes remarquables. Et ça, j'aimerais bien que vous nous racontiez cette rencontre.
Bien, je dois dire que c'est une rencontre qui a beaucoup compté pour moi, parce que je ne m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un de cette stature dans le Perche, je peux dire ça, vraiment. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'occasion du salon, de la fête du livre de la Ferté-Vidame,
oui,
où il présentait d'une manière extrêmement modeste un ouvrage très savant, je trouve, qui avait été réalisé à partir de rencontres, de colloques sur un temps assez long, qui concernait une éthique du libéralisme.
C'est ça, oui.
Absolument. Et il s'agit de Bernard Heisenberg. Bernard Heisenberg, c'est quelqu'un qui, un grand comme il l'était, je peux dire les choses de cette manière, qui a commencé sa carrière, c'est un polytechnicien.
Oui.
Il a eu comme mentor deux personnalités qui sont restées dans la mémoire de tous les Français, je pense. Michel Jobert, qui était ministre d'État d'abord, et ensuite, il a été le bras armé de la politique industrielle du président Georges Pompidou. Et il a piloté un certain nombre de projets qui sont des projets dont la France peut encore se glorifier. La fusée Ariane, entre autres, je pense, de mémoire.
On peut aussi parler de tout ce qu'il a fait sur un plan caritatif.
Alors, absolument. Mais de toute façon, ses amis, il m'a raconté que ses amis le plaisantaient beaucoup parce que il disait de lui qu'il pouvait rédiger les statuts associatifs à l'endroit, à l'envers. Enfin, il connaissait toutes les fondations possibles. Il avait travaillé sur des tas de projets et il était incollable sur le sujet.
Oui.
Alors, c'est un polytechnicien, mais c'est un polytechnicien extrêmement discret qui a, quand on lit, il a rédigé il y a quelques années, il a publié un livre sur sa carrière. Et en réalité, c'est assez épatant. On est quand même assez étonné.
C'est sa biographie, en quelque sorte.
Moi, je suis complètement admirative parce que je crois qu'il a présidé tout ce qui est présidentiable en France, hein. Toutes sortes d'entreprises de très, très haut niveau. Alors, en même temps, il raconte des choses très émouvantes sur ses débuts comme ingénieur des mines. Bon, il m'a raconté une anecdote qui m'a beaucoup touchée quand il descendait au fond de la mine tous les matins avec les mineurs. Et il me dit qu'il a continué à correspondre pendant de leur vivant, avec tous ces anciens camarades du coron qu'il côtoyait tous les jours, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux disparaisse. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré une telle solidarité ailleurs.
Eh bien, nous allons marquer une pause musicale, si vous le voulez bien.
Thank you.
Je suis toujours avec Marie-France Kayser et nous évoquions la rencontre avec Bernard Ezembert. Bernard Ezembert, qui a une grande personnalité, quelqu'un qui a travaillé avec Georges Pompidou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore ?
En réalité, il a une maison dans le Perche, vous le savez, depuis plus de 40 ans, peut-être, vous le savez, vous, et c'est ce qu'il m'a expliqué. Et Bernard Ezembert, en réalité, il faut que je le précise, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il est à la fois polytechnicien et ex-mine. C'est ce qui n'est pas tout à fait... Il est sorti à chaque fois dans la botte. Donc, c'est quand même une personnalité remarquable. Et une de ses plus grandes fiertés, c'est d'avoir présidé pendant 3 mandatures l'école polytechnique dont il avait été élève. Alors, il va être chargé même de la rénover profondément. On lui a demandé de faire des polytechniciens les officiers de la guerre économique. Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui a donné beaucoup de son temps à des associations. Donc, il a aussi présidé le conseil d'administration de l'Institut Pasteur et il animait beaucoup de fondations. Il a créé lui-même la fondation pour la recherche sur l'épilepsie. Il a créé aussi, je pense, l'école des neurosciences de Paris. Il est grand officier de la Légion d'honneur, grand officier du mérite national, croix de la valeur militaire. Enfin bon, voilà. J'arrête parce que le nombre de sociétés, de grandes entreprises françaises qu'il a présidées est incroyable.
Donc, on a hâte de lire.
Oui, voilà. Moi, j'ai sa vie, c'est un roman. Je pense qu'on pourrait en faire un film sans problème.
Oui.
Il y a tous les ingrédients.
Déjà dans ce numéro, eh bien, on peut voir et les photos et ce texte
Absolument.
Que vous avez écrit, qui est fort intéressant.
Ça a été une rencontre formidable.
Alors,
ce n'est pas tout. Hein. On n'a oui. pas. On a aussi rencontré des chevaux.
Voilà. L'emblème du Perche étant le cheval percheron, il fallait que vous rencontriez Évelyne Morin.
Oui, voilà, parce que Évelyne Morin, c'est l'âme vraiment de la fête du 15 août, la fête du cheval percheron qui a lieu tous les ans le 15 août à Saint-Cyr-la-Rosière. C'est elle qui l'a inventé, par hasard, avec l'aide d'éleveurs. Et chaque année, elle a organiser un spectacle différent à chaque fois. Elle a réussi à chaque fois à faire venir à Saint-Cyr-la-Rosière une personnalité extraordinaire, une championne italienne, des chevaux du roi du Maroc, des cavaliers japonais qui sont venus à Saint-Cyr-la-Rosière. Cette année, c'était les timbaliers de la garde républicaine.
Oui.
Et c'était extraordinaire. Ils ont passé la journée dans les prés autour de l'abbaye de Saint-Cyr-la-Rosière. Et c'était formidable parce que les gens...
Le public
était très intéressé. Enfin, le public était enchanté de les rencontrer. Il y avait bien sûr beaucoup d'éleveurs. Enfin, c'était très, très joyeux. Malgré tous les inconvénients liés au pass sanitaire, c'était un petit peu plus compliqué, mais sans aucune aide extérieure. Je dois dire que vraiment ce que je voulais signaler, c'est qu'elle a réussi à organiser cette journée, bien que le parc régional lui ait retiré la subvention qui lui servait chaque année à dédommager les éleveurs des frais engendrés par le trajet de leurs animaux. Et ça, c'était un peu vachard, quand même.
Alors, autre article que j'ai beaucoup aimé, c'est le conservatoire des pivoines de Sourche.
Oui.
Alors, c'est quand même un peu loin de
alors,
base.
Oui. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça se passe dans les douves du château de Sourche. Le château de Sourche se situe à Saint-Symphorien. C'est à quelques kilomètres du Mans, à l'ouest du Mans, une vingtaine de kilomètres. Et c'est une idée...
Alors, c'est une collection de pivoines.
C'est une collection de pivoines. Il y a 2711 variétés de pivoines rares.
De toutes les couleurs ?
De toutes les couleurs, de toutes les variétés, de tout. C'est, comment dire, une Bénédicte Foucault, qui était une antiquaire parisienne, qui s'est prise de passion pour cette fleur. Et quand son mari a acheté ce château qui est à Sourches, enfin, c'est un château qui est assez impressionnant, qui
un
a une histoire.
Un château du 18e,
c'est oui, ça. C'est ça. Il y a toute une histoire. Bon, on la raconte dans notre article. Et là, mais elle s'est passionnée pour les pivoines et elle a eu l'idée de les transporter dans les douves du château. Parce que c'était un endroit protégé des bêtes sauvages. Parce qu'au départ, elle les avait plantées dans les jardins, mais oui. Il y a beaucoup d'animaux sauvages qui venaient les manger. Donc là, tous les ans, elle a une centaine de nouveautés.
Ah oui. Alors comment elle arrive à avoir des nouveautés?
Ah ben, elle parcourt le monde à la recherche des pivoines.
Ah oui.
Ah mais oui, elle va les chercher, elle les transplante, il y a un laboratoire, enfin elle travaille très très sérieusement.
Et quand vous y étiez, les pivoines étaient en fleurs?
Alors voilà, il faut effectivement guetter la floraison parce que c'est éphémère.
Mais oui.
Mais on peut quand même visiter le château et il y a toute
Alors,
l'explication.
Alors quel mois est particulièrement intéressant?
Ça va de fin mars à mai à peu près. Mai, hein, voilà, il faut. Toutes les pivoines ne fleurissent pas en même temps,
non,
heureusement.
Non, oui.
Voilà.
Donc, il y a de nouvelles variétés chaque année.
À chaque année, elle rajoute. Elle rajoute des nouvelles variétés.
C'est énorme, ça doit être sur un hectare au moins.
Il y a presque 3000 pieds. Hein, donc
ah,
c'est,
oui.
Oui, c'est très, très beau. Voilà. Hein, donc, on a donc cet aspect du patrimoine. Les jardins, ça fait partie aussi du patrimoine percheron. Hein, voilà.
Oui,
c'est un peu plus loin, c'est aux limites du Perche, mais quand même.
Donc, c'est Saint-Symphorien.
Saint-Symphorien, voilà.
Le château de Sourches.
Oui.
Alors, autre chose, dans le Perche, il y a maintenant, et ça, nous nous en réjouissons, c'est l'opéra au chant.
C'est ça. Ce qui est amusant, c'est une Anglaise, Jenny Emmons, qui avait cette idée. Elle adore l'opéra et elle adore le Perche, où elle a décidé de venir s'installer.
Et à Préaux.
À Préaux du Perche, donc dans la campagne. Elle a réaménagé sa grange, la grange pâtissière, pour en faire un lieu de spectacle. Mmh. Elle a fait venir des ouvriers spécialisés, effectivement, pour bien étudier je ne trouve plus le mot.
Oui, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse bien entendre.
Oui,
donc,
l'acoustique, voilà. Pardon.
Oui, donc elle a aménagé justement
l'acoustique. Oui, tout est aménagé d'une manière extrêmement professionnelle dans sa grange et elle peut accueillir une cinquantaine de personnes.
Nous étions plus nombreux, je crois, la première fois que nous y allâmes.
Oui. Bon, et en ce moment, ce sont les débuts. Hein, tout s'organise au fur et à mesure. Elle aménage, elle améliore. Elle a prévu toute une série de rencontres et de spectacles. Il y en a un, je crois, qui aura lieu au mois de novembre.
Oui.
Et à chaque fois, c'est ou de l'opéra, ou du théâtre, ou des chansons, ou de la musique, du jazz. Enfin,
c'est-à-dire que grâce à elle, on peut dire que l'opéra devient accessible à de nombreuses personnes, parce que ce n'est pas un opéra en entier, mais ce sont des bribes, en quelque sorte.
C'est retravaillé. Par exemple, il y avait une représentation de la Traviata, qui a eu lieu dans son théâtre, et bon... Évidemment, c'est un petit théâtre avec une petite scène. Il y avait seulement trois artistes qui chantaient.
Et avec des costumes somptueux.
Les costumes étaient somptueux, exactement.
Une musique remarquable.
Vraiment, beaucoup de travail de préparation. Hein, c'était vraiment professionnel. Par exemple, le second acte avait été considérablement raccourci parce qu'il n'y avait aucune possibilité de faire chanter les chœurs sur la scène, etc. Donc, ça avait été aménagé en fonction des lieux et c'était tout à fait... les spectateurs étaient ravis.
Oui. Alors, les prochains, c'est le 18, 19 et 20 novembre.
C'est ça.
Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut retenir. Hein. C'est
absolument.
Vraiment...
Donc, toutes les informations sont dans la revue pour vous permettre de faire une réservation. Il y a un site internet, c'est très pratique.
Alors, dans votre publication, il y a également un train à vapeur.
Oui.
Alors, ce train à vapeur, il continue à faire circuler des locomotives, c'est bien ça.
Alors, c'est une association de passionnés, vraiment, ce sont des gens qui sont très, très passionnés par le train, qui ont remis en état et qui font circuler des vieux wagons, des locomotives sur un petit trajet entre Conneret et Bonnétable.
Vous l'avez pris ?
On l'a pris, bien sûr. Pays du Perche est parti vraiment rencontrer les amoureux du train. Et donc, en réalité, on arrive au milieu de nulle part. c'est un peu ça. Le rendez-vous est assez... C'est pas une gare, c'est un peu spécial, mais bon. Et le chef de gare choisit la locomotive qui va circuler en fonction du nombre de voyageurs.
Ah voilà. Et voilà. Quand vous y étiez, il y avait beaucoup de voyageurs.
Oui, oui, c'était très animé cet été. Vraiment, c'est très plaisant parce que on peut faire. Il y a plusieurs possibilités. On peut s'arrêter. On peut aller pique-niquer sur le trajet, reprendre le train après. On peut faire l'aller-retour. Enfin, voilà. On peut aussi louer le train pour une fête particulière, privée, à toute époque de l'année.
Ah, c'est bien.
Voilà. C'est une association qui est très dynamique et qui est ouverte à tous les amoureux des trains. Donc,
Alors, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que vous ayez parlé de Brou. Parce que Brou, c'est vraiment un patrimoine historique très
voilà.
intéressant.
C'est le dossier patrimoine de la revue cette fois-ci. Il est conséquent. Hein. C'est vraiment un dossier assez complet sur... Une ville, finalement, dont on avait un peu oublié tous les trésors.
Oui, parce qu'on y va pour le marché.
On y va pour le marché, qui est très, très actif. On y va parce qu'il y a une activité économique incroyable. Quand on est à Brou, on oublie, en fait, que c'est une petite cité qui a connu
historique,
oui. Alors... C'est une ville qui a à peu près le même nombre d'habitants que Mortagne-au-Perche.
Oui. Hein,
un peu plus de 3400 habitants, qui a une activité économique assez intense. C'est vrai. Hein.
Eh bien, je crois, chers amis auditeurs, que vous aurez à cœur de vous procurer cette merveilleuse revue Pays du Perche, le numéro 36, et vous pourrez retrouver tous nos textes, parce que Marie-France Kayser se donne beaucoup de mal pour nous faire découvrir à chaque fois de nouveaux aspects du Perche. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci beaucoup, Marie-France Kayser.
Merci, Christiane Blas. Thank you.